Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 17 avril, le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Nous reviendrons également sur le plan social chez Domo Chemicals. Les policiers du Rhône et les CRS effectuent de grandes opérations de contrôle, que ce soit dans le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, mais aussi à Lyon pour contrôler les cyclistes. 14 hectares, c'est la surface regagnée sur le bitume depuis 2020 sur la ville de Lyon. Et puis l'espace Albert Camus de Bron va accueillir la première édition du festival Chasseurs d'Orage. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Alexis Maillard.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre, visé par une série d'accusations de violences sexuelles commises entre les années 50 et 2000. Un livre enquête paraît ce jeudi. Il se base sur les archives du Saint-Siège qui permettent cette conclusion. L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint, aux éditions Alary. Les journalistes Marie-France Etchegouin et Laetitia Chorel ont mené cette enquête. Elle révèle une procédure judiciaire entamée par l'organe de la curie romaine chargée de contrôler les mœurs et la foi des membres de l'Église, le Saint-Office. Procédure qui a été freinée par les évêques en France et même vite refermée et enterrée 2 ans plus tard, en 1957. En France, les archives de l'Église, ouvertes de façon anticipée devant l'émotion provoquée par les révélations d'agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre, ont déjà permis de dévoiler comment, à la fin des années 50, la hiérarchie épiscopale avait gardé le silence sur un comportement jugé problématique mais jamais nommé. Dans la foulée des révélations, le pape François avait assuré en septembre que le Vatican était au courant, au moins depuis sa mort en 2007, des accusations de violences sexuelles à l'encontre de l'abbé Pierre. Plan social chez Domo Chemicals, 155 emplois sur les 500 salariés du site sont menacés par ce plan, sans compter quelques 200 emplois indirects des sous-traitants potentiellement impactés. Les syndicats CGT, CFDT et UNSA ont reçu hier le soutien des élus locaux et d'autres collègues des entreprises voisines, Sanofi, Biomérieux, Solvay, lors d'une nouvelle manifestation. Les salariés sont inquiets d'une possible fermeture à court terme du site. Domo a créé en Allemagne un site similaire. Les syndicats craignent un possible transfert des brevets, machines et compétences. Le site allemand génère des produits différents à partir de matières premières différentes, prétend la direction. Pour assurer l'avenir du site de Saint-Fons, il est nécessaire de se recentrer sur ses activités aval en cessant une partie de ses activités amont, explique la communication de Domo Chemicals. Les policiers du Rhône et les CRS ont effectué une grande opération de contrôle routier dans le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin mardi. 13 infractions délictuelles ont été relevées, 47 contraventions dressées et 21 véhicules immobilisés. 9 voitures ont été mises en fourrière. À Lyon, les policiers ont notamment contrôlé les cyclistes quai aux Gagneurs à Lyon. 107 infractions ont été sanctionnées. La préfecture précise que 20 personnes sont décédées sur les routes du Rhône et du Grand Lyon depuis le début de l'année. 14 hectares, c'est la surface regagnée sur le bitume depuis 2020 sur la ville de Lyon, pas loin de 12 000 arbres plantés, 260 actions de plantation menées à leur terme par la municipalité jusqu'ici, une centaine de rues végétalisées, 39 parcs ou encore 25 cours nature végétalisées dans les écoles et les crèches. Un bilan auquel s'ajoutent les plantations d'arbres. La ville de Lyon table sur 11 000 arbres d'ici 2026. Le nombre de plantations a ainsi été multiplié par 2 par rapport au mandat précédent, assurent les élus écologistes. Un changement de cap permis par le vote en 2020 d'un budget de 141 millions d'euros consacré à la nature en ville. Parmi les projets en cours ou à venir, le bois de la Pardieu, le parc des balançoires, le parc des balmes ou encore la végétalisation de la rive droite du Rhône. Cette dernière représentera 3 hectares repris par la nature.
Lyon Demain, créateur d'envie.
Samedi 26 et dimanche 27 avril, l'espace Albert Camus de Bron va accueillir la première édition du festival Chasseurs d'Orages. Des personnes qui traquent les orages, parfois violents, dans le but de les observer, de les photographier et de les étudier. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Alexis Maillard, photographe et chasseur d'orages. Il habite le Beaujolais.
Chasseur d'orages, c'est quelqu'un qui est passionné par le phénomène météo qui est l'orage et qui va chercher à le rencontrer pour le filmer, pour le photographier ou même ne serait-ce que pour le documenter et qui va s'émerveiller de tous les phénomènes qu'il va pouvoir croiser sur son chemin.
Comment on pratique cette activité à partir du moment où on a écho de l'existence d'un orage et jusqu'à la photo?
C'est ça. Alors, on est toujours un petit peu à l'affût des prévisions météo pour savoir quand est-ce qu'est la prochaine échéance orageuse. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance, on a des données de plus en plus précises qui permettent de cibler une zone un peu plus intéressante. Et ensuite, on va aller sur le terrain, essayer de se placer le mieux possible par rapport à l'orage pour pouvoir l'observer sans le subir non plus, notamment étant dehors des précipitations ou de la grêle. Et après, tout à chacun va faire ce qu'il veut avec l'orage. Moi, pour ma part, c'est la photographie avant tout. Et ensuite, on va essayer de capturer le plus de choses possible et de ramener de belles images.
C'est quoi votre terrain de chasse, non ?
Alors, on va dire le plus proche de la maison, le mieux c'est pour le portefeuille. Mais moi, personnellement, ça va donc toute la région Rhône-Alpes, Bourgogne. Et puis, on a la chance d'être vraiment pas loin de la Suisse. Et le pourtour du lac Léman est un coin qui est assez célèbre pour les orages. On a eu très belles images faites là-bas, donc c'est des coins où je vais souvent. Tout ce qui est le Jura également. Et puis quand on arrive à l'arrière-saison, à arriver à l'automne, à partir de la fin août jusqu'à la mi-octobre, là c'est plutôt le bassin méditerranéen qui devient une zone très intéressante. Et donc on va dire que de toute la côte entre Valence et Barcelone en Espagne jusqu'en Italie, en Toscane, c'est tous des coins qui sont assez magnifiques. Et donc en fonction des situations, on peut être amené à parcourir beaucoup trop de kilomètres pour des fois seulement quelques images. Mais bon, quand ça vaut le coup, on réfléchit pas trop, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Je suppose que si on est là avec son smartphone, ça va pas trop marcher, tout ça.
Alors, avec le smartphone, on va pouvoir filmer, surtout. Il faut un minimum de matériel photo, mais rien forcément de très, de trop professionnel ou de trop onéreux. Rien qu'avec du matériel déjà relativement basique, on peut faire de la photo de foudre de nuit, dans un premier temps. C'est vraiment la manière la plus accessible de faire de la photo de foudre. Quand on va s'intéresser à la photographie de jour, c'est là où on va avoir du matériel un peu plus spécifique, avec notamment ce qu'on appelle les cellules de déclenchement. Donc c'est ces petits boîtiers qu'on vient connecter à l'appareil photo et qui permettent de déclencher automatiquement l'appareil quand il y a un éclair. Et là on arrive dans du matériel qui est un peu plus technique, et c'est là où du matériel photographique aussi un peu plus haut de gamme et un peu plus réactif va entrer en compte. Mais avec du matériel déjà relativement basique en termes de boîtier photo, on peut de nuit réaliser de très belles images. Et on a tous commencé il y a peut-être 15, 20, 25 ans avec du matériel assez basique, et on a commencé à faire déjà des images très intéressantes pour autant. Donc voilà, pas forcément non plus des milliers d'euros pour réaliser des images.
Un éclair ressemble à un autre éclair, mais qu'est-ce qui fait la différence ?
Ah ouais, il n'y a rien qui ressemble plus à un éclair qu'à un autre éclair, mais à chaque fois, on a des lumières qui sont différentes, des ambiances qui sont différentes. On peut s'émerveiller d'un éclair très proche où on va avoir beaucoup, beaucoup de détails dans l'éclair. Et en même temps, on peut aussi s'émerveiller d'un petit éclair au loin sur un orage très isolé qui va être pris dans un paysage dans son ensemble. Et il y a vraiment plein de facettes différentes, et c'est quelque chose, je pense, qu'on pourra bien voir dans l'expo photo, parce qu'on va avoir plein d'approches différentes, de plein de photographes différents, et ça va permettre de se rendre compte du panel et de tout ce qui est possible de faire en termes de photographie d'orage.
Parce qu'il y a la foudre qui frappe le sol, on est d'accord, et puis il y a la foudre entre les nuages aussi qu'on peut apercevoir parfois.
Exactement. Alors d'ailleurs, bien souvent, la première activité électrique qui se manifeste dans un orage, c'est ces éclairs intra ou inter-nuageux, ce qu'on appelle. Et lorsqu'on a atteint un certain niveau de déséquilibre, là, on va avoir les coups de foudre qui tombent au sol. Mais moi, personnellement, même si j'adore les coups de foudre proches qui vont tomber, qui vont illuminer le paysage, j'ai vraiment un faible pour les orages isolés de nuit qui vont s'illuminer de l'intérieur. Ça fait un peu comme des méduses qui s'illuminent de l'intérieur. C'est juste des éclairs qui ne vont pas au sol, qui restent dans le nuage. Mais à voir, c'est absolument fantastique.
Le résultat, c'est quoi ? C'est des grandes photos. Comment on peut traiter après ce qu'on ramène, son fichier
Alors, bien souvent, ça va être des photos qu'on va publier sur les réseaux sociaux ou sur nos sites internet. Et quand on a vraiment une photo qui nous marque, et ben c'est vrai que c'est quelque chose de, c'est un cap de franchi que de chercher à te faire l'imprimer. Sur un format plus ou moins grand. Et par exemple, là, pour le festival Chasseurs d'Orage, moi, pour ma part, c'est une toute nouvelle série que je fais de photos depuis, on va dire, ces 10 dernières années. Et c'est des images que ça faisait très longtemps que je J'avais envie de tirer, là c'était l'occasion, et donc c'est que des images. Quand on découvre sa photo en fait tirée en grand, c'est autre chose que de la voir en fait sur l'ordinateur, sur l'écran du smartphone. D'un coup, de la voir en grand pour prendre du recul, pour avoir le temps de regarder chaque détail, c'est la photo prend une autre dimension une fois qu'elle est imprimée.
Est-ce que c'est une activité qui est dangereuse? Quand on parle de la foudre, évidemment, on parle d'un phénomène qui est assez dangereux quand même.
C'est souvent la première chose à laquelle on pense, c'est le risque de foudroiement. En réalité, le risque premier qu'on va prendre quand on chasse les orages, c'est sur la route. Parce qu'on va être confronté à des conditions de circulation qui vont être dangereuses avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Quand ça fait plusieurs heures qu'on chasse les orages et qu'on rentre au bout de la nuit, 3-4 heures du matin, avec beaucoup de fatigue qui s'est accumulée, on peut aussi de gros risques à prendre à ce moment-là. Donc les risques principaux sont là. Ensuite, bien sûr, il y a les risques liés au foudroiement. Et c'est là où le véhicule a toute son importance aussi. C'est qu'on essaye d'être toujours pas trop loin de notre véhicule quand on va chercher à faire des photos de foudre. Si jamais on se retrouve dans une position où les éclairs se mettent à frapper beaucoup trop proche, on peut se réfugier dans la voiture qui va agir comme une cage de Faraday. Si jamais la voiture est impactée, en étant à l'intérieur, on reste en sécurité.
Quels sont vos principaux souvenirs, vos meilleurs souvenirs de photographes, de chasseurs d'orages?
Meilleurs souvenirs, c'est très difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai deux en particulier. Je dirais que j'ai en 2022, la toute première fois où je suis parti en chasse aux orages en Italie, dans la région des Cinque Terres. C'est la première fois que je mettais les pieds en Italie pour ça, dans une zone que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu le droit à un orage nocturne dont j'ai été le seul à pouvoir faire des photos. Et c'était la première fois que je prenais des photos de foudre sur la mer. Et c'était absolument extraordinaire. Et l'année dernière, lors de mon second voyage aux États-Unis, avec l'équipe avec laquelle j'étais, on a été sur le trajet d'une tornade qui nous est passée à 400-500 mètres devant. Et de se retrouver aussi proche d'un élément aussi puissant, c'était absolument... C'est des sensations qui sont indescriptibles. Il faut vraiment faut le vivre quoi, pour comprendre ce qu'il y a à ressentir sur place. Quoi.
Quand on pense aux orages, on pense bien sûr à l'image, mais il y a aussi le son. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec du son d'orage?
Alors oui, en vidéo, ça a toute son importance. Et puis pendant le festival, on a du coup cet artiste qui a... Je suis très curieux d'ailleurs de voir ce que ça va donner. Le petit extrait qu'il nous a donné, ça m'a vraiment piqué ma curiosité de créer de la musique en utilisant les données liées au foudroiement. Ça a l'air d'être franchement intéressant. Donc il y a plein de choses à faire à ce niveau-là aussi.
Alexis Maillard, chasseur d'orage, le festival Chasseur d'Orage, les samedis 26 et dimanche 27 avril à l'espace Albert Camus de Bron. La Ligue Europa, quart de finale, retour. L'Olympique Lyonnais défie Manchester United ce soir. Après le match nul 2-2 à l'aller, tout est ouvert à Old Trafford. L'espace double mixte situé sur le campus de la Douane n'accueillera plus désormais d'événements musicaux. Le festival Repercussion s'installe pour la dernière fois. Les deux soirées des 18 et 19 avril, vendredi et samedi soir, affichent complet la 20e édition de ce grand rassemblement des musiques électroniques et actuelles. S'achèvera dimanche. Les organisateurs, l'association Mediatone, ont concocté une journée de dimanche inédite à la LDLC Arena de Décines. Dès 15h, des animations et des sessions musicales sur le parvis de la salle. À l'intérieur, une scène centrale à 360 degrés, avec des artistes comme Kavinsky, Petit Biscuit ou encore Joachim Pastor et Mara. 4000 personnes sont attendues dimanche et 14 000 sur l'ensemble du festival Repercussound. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.